Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Pierre Georges, pour qui ce nom aujourd'hui évoque-t-il quelque chose? Si je dis colonel Fabien, à beaucoup d'entre vous, ce nom évoquera une place de Paris ou une station de métro. Et au plus avisé, le siège du Parti communiste français, puisque cette figure de rhétorique s'est banalisée. Et à encore moins d'auditeurs, ce colonel Fabien évoquera la mémoire d'un extraordinaire militant. Belle jeunesse qui se cherche des idoles et des exemples et qui va aisément les trouver en Sud-Amérique, il est de jeunes Français au parcours tout aussi irréprochable et admirable dont vous ne connaissez même pas les noms. Ainsi, Pierre Georges, complètement emblématique de cette catégorie de combattants à la vie et à la mort, et qui pourtant s'était choisi la devise « vaincre et vivre ». Son destin est si exceptionnel que nous avons choisi de lui consacrer deux émissions pour retracer son parcours plus qu'exemplaire, extraordinaire. Après déjà beaucoup d'actions militaires, de guerres et de résistance, nous arrivons dans cette deuxième émission à la période qui commence à mi-1942, où Pierre Georges va se déplacer en Franche-Comté pour poursuivre son action jusqu'au 27 décembre 1944, où il connaîtra sa fin tragique après avoir contribué à la libération de Paris d'une part, et d'autre part, après qu'il ait constitué un régiment de résistants libérateurs pour poursuivre l'anéantissement des nazis.
Au nom du front parfait, profond, au nom des yeux que je regarde et de la bouche que j'embrasse, pour aujourd'hui et pour toujours, au nom de l'espoir enterré, au nom des larmes dans le noir, au nom des plaintes qui font rire, au nom des rires qui font peur, au nom des rires dans la rue, de la douceur qui lie nos mains, au nom des fruits couvrant les fleurs, sur une terre belle et bonne, au nom des âmes en prison, au nom des femmes déportées, au nom de tous nos camarades martyrisés et massacrés pour n'avoir pas accepté l'ombre. Il nous faut drainer la colère et faire se lever le fer pour préserver l'image haute des innocents partout traqués et qui partout vont triompher.
Arrivé dans le Doubs, Pierre prend le pseudo de Henri et noue ses premiers contacts. Après quelques jours en Haute-Saône, il part à Montbéliard où il retrouve un ouvrier de Peugeot à Audincourt, René Gabu. Puis il va à Aubouan, Yèvre-Magny, Clerval et Branne, où il va loger plusieurs semaines. Là, il entendra parler de Pierre Villeminot, un patriote, alias lieutenant Noël, qu'il va rencontrer. Or donc, Pierre Villeminot, il faut s'attarder un peu sur lui. Il est né le 14 avril 1913 et en 1917, il est déjà orphelin de son père, gazé en 1916. Études, travail, goût d'écrire. En 1939, il est employé à la mairie de Besançon. Sportif, il est le capitaine de l'équipe de foot de Clerval. La drôle de guerre, il la vit en Alsace. Puis, c'est l'invasion. Il sera interné en Suisse 9 mois et s'échappe. 2 mois à Grenoble avec des résistants et le revoilà à Clerval, qui reprend l'activité de marchand de vin de son père, avec en tête une idée fixe, la libération de son pays, la lutte contre l'occupant. Il commencera par multiplier les plongées dans le Doubs la nuit pour récupérer les armes et munitions jetées là par les armées françaises qui battaient en retraite. Et au milieu d'avril 42, voilà réunis dans un bureau Henri, Noël et Alain. Chacun de ces hommes avait organisé une bande d'amis autour de lui et tout ce monde va devenir la compagnie Valmy. Dans ce groupe, des volants sans adresse fixe en perpétuel mouvement et un réseau de sédentaires, discrets supports et points de chute des autres. Et cela commence aussitôt. Le 24 avril, on récupère des cartes de ravitaillement à la mairie d'Arbouan. Le 25, un pylône saute à Vieux-Charmont. Puis la voie ferrée est déboulonnée près de l'Isle-sur-Doubs. À Besançon, une bombe saute à l'hôtel de Paris. Une autre à la permanence du RNP de Déa. Une autre à la Fronde Bouche Handlung, place Saint-Pierre. Le 13 juillet, Pierre-Georges escalade le mur d'enceinte de l'usine LIP et le transformateur sautera un moment après.
Quand retentit le cri d'alarme, pour la liberté nous vaincrons. C'est du maquillage, ils n'ont peur de rien, chassant les fantoches du traître Pétain. Pour gagner la guerre, sauver le pays, ni faim, ni misère, ni la mort ne fuit. À Kizer, debout tous aux armes, regroupons-nous vite et marchons. Quand retentit le cri d'alarme, pour la liberté nous vaincrons.
C'est le 11 août que Édouard Griesboom entre en contact avec Pierre-Georges via un boulanger de Giromagny. Qui est-il ? Édouard Griesboom vient de Mulhouse où il est né. Responsable du Parti communiste dans le Haut-Rhin, il est en Alsace fin juillet 40 où il apprend que la Gestapo le recherche, d'où départ immédiat vers Belfort où il va œuvrer dans la clandestinité. À 43 ans, ce solide bonhomme, alias lieutenant Nicole, va devenir un des piliers de la compagnie Valmy. Le 12 septembre 1942, l'usine hydroélectrique de la source de la Loue saute. Pour le 22 septembre, commémoration de Valmy oblige, on arrosera de balles un train de permissionnaires allemands. Le 7 octobre, Pierre-Georges est informé du passage de la voiture allemande de la paix des officiers sur l'itinéraire de Besançon au Val-d'Aon. Un peu après mort, à quelques kilomètres de Besançon, dans un virage, Pierre-Georges, sa grenade à la main, attend la voiture et lance la grenade. Opération réussie. Les nazis fuient, un est abattu, et les résistants prennent possession des armes et du reste. Près de Mamirol, on récupérera dans une mine 3000 détonateurs et les accessoires. Et comme d'habitude, retour à vélo dans les planques autour de Clerval. 15 octobre 1942, cinq semaines après le mariage de Pierre Villeminot, à 15h, on frappe à la porte. C'est le gendarme Boussard qui demande à Pierre de passer à la gendarmerie, rapport au match de foot du dimanche. C'était un piège. L'attendait là le gestapiste Marsac, qui l'arrête aussitôt. Ce Marsac qui sera pendu à Dijon le 15 février 1945. Marsac cherche un homme. À 16h, il débarque chez Pierre pour tout mettre sans dessus-dessous. Son épouse Yvonne dissimule comme elle peut les éléments compromettants. Les gendarmes arrêteront d'autres résistants. Et ce sont les mêmes gendarmes qui, 2 ans plus tard, passeront le brassard FFI. Le 17 octobre 1942, l'écluse numéro 6 de Bourogne saute. Au milieu de la nuit, une formidable explosion. Henri, Nicole, Ruel, Cachler, Alain et Métrinco ont posé leurs obus de 75 reliés au détonateur et se sont dispersés direction Clerval. À leur arrivée, ils apprennent l'arrestation de Pierre Villeminot, alias lieutenant Noël, et de tous les autres du groupe des civils. Décision est prise de quitter le secteur au plus vite, direction la vallée de l'Isle sous 4 à 5 jours.
À la ferme du Bois, qu'est à la mère Camille, à la ferme du Bois. Qu'est à la mère Camille, tous les gars du comptoir en pince pour ses filles, v'là venu le temps, turlurelure, on va foutre sur la figure au garde mobile à Darnan. C'est la blonde aux yeux bleus qui est la plus gentille, c'est la blonde aux yeux bleus qui est la plus gentille, la plus belle, la rousse, la plus fière. Martine, v'là venu le temps, turlurelure, on va foutre sur la figure aux miliciens, aux Allemands. Quand pour le ravito, on demande une équipe, quand pour le ravito, on demande une équipe, passant par le hameau, on va leur faire visite, v'là venu le temps, turlurelure, on va foutre sur la figure aux gardes mobiles à Darnan. Quand on aura foutu tous les cheleux hors de France, quand on aura foutu tous les cheleux hors de France, à la ferme du Bois je reviendrai, je pense, v'là venu le temps, turlurelure, on va foutre sur la figure aux gardes mobiles à Darnan. Mais laquelle des trois dans mes bras vais-je prendre? Mais laquelle des trois dans mes bras vais-je prendre? C'est la blonde aux yeux bleus, Manadetto, cœur tendre, v'là venu le temps, turlurelure, on va foutre sur la figure aux gardes mobiles à Darnan.
En attendant leur départ, ils logent dans les bois du creux de l'Alouette. Un ramasseur de champignons, le paysan Curti, qui les connaissait bien car il les fournissait en lait, boisson de prédilection de Pierre, se pointe dans le secteur, puis retourne à sa ferme. Les 100 000 francs promis au dénonciateur lui tournent dans la tête. Il monte sur son vélo et court à la gendarmerie. Au creux de l'Alouette, on termine les préparatifs du départ. Il est midi. Et 5 gendarmes débouchent du couvert des arbres et tirent. En quelques secondes, tous sont touchés. Ruel, 2 balles dans le ventre, 1 dans la cuisse. Cachler, 1 dans l'épaule. Métrinco, 1 dans le pied. Henri, 1 balle entre sous la tempe droite et ressort sous l'œil gauche. Seul Nicole n'est pas blessé, mais prestement menotté. Henri et Métrinco arrivent à s'enfuir. Métrinco était un jeune prisonnier russe évadé qui était un des volants de la compagnie Valmy et que Pierre-Georges gardait auprès de lui pour presque toutes les actions. Nicole, menottée, ramasse sa veste, y récupère son arme et tire. Les Pandores ripostent et le blessent, mais il parvient à s'enfuir dans les buissons. Il a 1 balle dans les reins et 36 heures durant, il va errer en cherchant à rejoindre des complicités. Et au matin du 28 octobre, à bout de force, il pénètre dans une ferme, et un moment après, le paysan, venu chercher quelques fourchetés, tombe sur un gars étendu là, mort depuis peu. Hommage. Métrinco est rattrapé à un barrage le 26, et lui va tout dénoncer, tout vendre. Les arrestations seront multiples, une catastrophe. Curti le traite, lui, va empocher l'argent de sa fourberie, et devra se cacher de longs mois au fond de sa cave sans en sortir. Il ne dut de survivre que grâce à cette précaution. Mais s'il échappa à l'exécution, il n'échappa pas à un procès en janvier 1945, suite au retour de Pierre Georges en novembre 1944, qui porta plainte. Il s'en tira avec 15 ans de travaux forcés, dégradation nationale et confiscation de ses biens. Mais pour l'heure, Pierre Georges, alias Henri, fuit. Il saigne abondamment, mais il veut atteindre la vallée du Doubs. Pour tout vêtement, il ne porte depuis l'attaque que son slip. Il veut traverser la rivière pour avoir plus de chances d'échapper aux recherches et attend l'obscurité. Il arrive à Yèvres, le pont est gardé, bien sûr, donc il faut passer à la nage, dans le froid et l'eau glacée, et en silence. Il y arrive et se précipite sur la première maison où un paysan lui prête des habits. Et il repart, 7 kilomètres en forêt pour arriver à Villiers-Saint-Martin. Là, un habitant, M. Marguet, l'accueille et le cache, mais il est blessé et il faut trouver un médecin. C'est un ingénieur de l'électricité qui transportera Pierre à Belfort, au nez et à la barbe des Allemands. Il sera soigné par le docteur Pétrequin à Montbéliard. Pierre laisse pousser sa barbe pour dissimuler ses plaies et rentre à Paris, avec André, qui participait elle aussi aux activités du groupe Valmy. D'une part, il doit être à nouveau soigné, et d'autre part, il doit fuir la région où il est recherché activement. À Paris, il ne sort pas de son appartement clandestin de la rue de Lévis, où il loge avec André. Il rencontre Albert Ouzoulias, qui, voyant son état, contacte un médecin pour le soigner. Et le 30 novembre 1942, en se rendant chez un chirurgien esthétique, il est arrêté au métro République à un barrage policier auquel il ne peut échapper. Il tente de fuir, sort son arme, en use, se bat, mais est finalement maîtrisé par le nombre, non sans avoir crié « À mort ceux qui aident les Boches ». Il écrira, comptant son arrestation, qu'il a tenté de se suicider avec son arme. Il est immédiatement identifié. Suivent alors des jours d'infernale torture par les vichistes d'abord, la section BS1, Brigade Spéciale 1, qui l'interroge et le torture. Le lendemain matin, en sang, perclus de douleur, il tente à nouveau de se suicider sans succès. Il parlera du passé, de tout ce qu'il a fait qui ne compromet plus que des morts. Aux flics français, il a lancé « Je suis un franc-tireur, je suis un patriote. J'ai vengé des centaines de patriotes que vous avez assassinés, vous et les Boches, et j'en suis fier. Sachez qu'en me torturant, vous n'obtiendrez rien et que vos procédés ne font que grandir notre lutte. »
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, deux sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle. Même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima. Pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Petite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda.
L'épouse de Pierre Georges, laissée provisoirement en liberté, sera arrêtée deux semaines plus tard sur la dénonciation du fameux Métrinco de la compagnie Valmy. Le 5 décembre, Pierre Georges est transféré au Cherche-Midi, mis entre les mains des Allemands. Ce sont alors 3 mois au secret absolu à Fresnes, cheville et poignet enferrés. Et le 28 janvier 1943, il est transféré avec son épouse à Dijon pour compléter l'instruction sur son activité en Franche-Comté. Il aura alors l'occasion de la revoir à la gare en attendant le train, et elle se souvient qu'il interpellait les passants sur le sort fait aux patriotes. À Dijon, il sera torturé à nouveau pour obtenir d'autres renseignements. En vain. Sur le mur de sa cellule à Dijon, il laissera cette inscription. Georges Pierre, du comité central des jeunesses communistes, condamné à mort par les Boches comme chef de partisans, a séjourné dans cette cellule, Février 1943, gloire à la jeunesse communiste, gloire à ses martyrs. Graffiti dont il reste une trace photographique. et le 1er mars, on lui annonce qu'il est transféré avec son épouse et 13 autres franc-comtois au fort de Romainville. C'est le 2 mars, en quittant Dijon, qu'il reverra pour la dernière fois André. Raymonde Georges, l'épouse de Daniel, sa belle-sœur, est arrêtée dans l'été 42. Elle avait quitté Romainville avec 230 femmes pour Auschwitz le 24 janvier. Elle y mourra le même jour que Daniel Casanova le 9 mai 1943. Arrivé à Romainville, André est mis au secret. Les hommes sont enfermés dans une casemate bordant les murs de la prison. Et là, une pensée obsède Pierre-Georges, s'évader. Et ce, d'autant plus qu'il pensait qu'il allait être fusillé, comme son père et son beau-frère. Il entreprend de constituer avec les prisonniers une compagnie FTP d'une cinquantaine de gaullistes et communistes pour organiser une évasion en force d'une soixantaine de prisonniers. Le 31 mars, un convoi part pour Mauthausen, ce qui oblige à revoir le plan. Pierre-Georges découvre une cloison en briques, séparant sa moitié de casemate de l'autre, dont la sortie est libre dans l'enceinte du fort. Il restera à franchir les hauts murs d'enceinte pour gagner la liberté. On creuse la cloison de la casemate, on fabrique des cordes et des grappins. Arrive le 1er juin. Il fallait sortir entre deux passages de la sentinelle. Le clair de lune compliqua les choses, il fallut attendre. Finalement, Jean-Albert Poirier et Pierre-Georges s'engagent. Mais un léger bruit survint qui mit les gardes en alerte. Les autres ne partiront pas. Et les SS furieux réprimèrent violemment tout le monde. Après son évasion, Fabien aurait tant voulu réaliser une attaque pour libérer tout le monde, dont son épouse. Ses chefs lui ordonnèrent de ne rien tenter. Il le vécut mal. Et les prisonniers furent rapidement déportés, dont André, qui fut transféré à Ravensbrück.
Geneviève à Paris, Geneviève et Marie, au collège d'Angers, l'astucieuse Renée, puis Yvette et Mireille, qui étaient à Marseille, la catalane Francine et sa mère Joséphine, les premières. Femme se maille, la résistance continue. Anna, femme d'Ukraine, aplanit les problèmes qu'Henriette et Daniel près d'ici nous révèlent. Jeannette et Dolores fabriquent des prouesses, tant à la Tuilerie qu'à la raffinerie. Ouvrières, conseillères, femmes de feu et de refus, femmes trouvailles, femmes semailles, la résistance continue. L'inconnu des rizières, toute petite mère, porte un fardeau léger au milieu des blindés, porte sans trop y croire un enfant de l'espoir, comme Huguette et Marie. En cet instant précis, en colère, en prière. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. C'est Colette et Jeannine, c'est Françoise et Martine qui vont à leur manière être des messagères, dénoncées par écrit, dénoncées dans un cri, un tas de vieux usages, maintenant d'un autre âge, ouvrières en colère. Femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. Ma sœur, oh ma sœur Anne, petite paysanne, cachait la jaune étoile, ce n'est pas si banal, un mutisme à l'anglaise. Et les pieds dans la glaise, et la foi et le foin, parfois ça cache bien la bergère, la fermière. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance se continue. Et Ève des montagnes qui battait la campagne de sa jupe à grands plis, un panier bien rempli pour ceux de la colline. Elle était si maligne, vous en souvenez-vous, de ces ruses de loup, héritière, bonne terre. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. D'ingéniosité, de risques appliqués sous l'allure légère que l'on dit éphémère, tant de forces cachées et de ténacité, de malice et de rire dont il faut se souvenir. Oh mes fiers, nourricière. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. La résistance continue. La résistance continue. La résistance continue.
Héberché par un employé du métro, Pierre va rester caché à Aubervilliers le temps de se remettre en condition physique et psychologique. Fin juillet 43. Pierre Georges est revenu dans le Doubs comme commandant militaire FTP à l'interrégion 21 sous le pseudonyme de Patrie. Et il rencontre à Sénargent Yvonne, l'épouse de Pierre Villeminot et la mère de celle-ci. Discrètement, bien sûr. Il leur donne de triste nouvelle de Pierre Villeminot. Mais il a aussi une demande à leur faire. Conduire dans 2 jours son complice d'évasion, Albert Poirier, et Christine, récupérer le cordon Bickford qu'il avait laissé dans une cache avant l'attaque fatale. Il devient alors le commandant Camille et va créer 3 nouvelles compagnies FTP. la Marseillaise près de Vesoul, la compagnie Valmy près de Lure et Luxeuil, et la compagnie France près de Grès et Champlitte. En deux mois, septembre et octobre 1943, ce seront 12 sabotages qui seront réalisés, écluses, transformateurs, voies ferrées. Fin 1943, l'interrégion 21 compte 1250 FTP. Et bien sûr, les actions reprennent encore plus nombreuses. Sabotage, déraillement, incendie, destruction de machines et enroulement massif des réfractaires du STO. Peu sectaire dans la ligne du Front National, il se liera avec des curés du coin, ce qui, entre autres, lui permettra de se rendre par le train à Paris toutes les trois semaines, habillé en soutane, le bréviaire à la main, sous l'identité du prêtre Paul-Louis Grandjean. Néanmoins, le bréviaire, bien épais, était tout de même creusé en son centre d'un trou, recevant un petit pistolet incorporé. Où va se nicher la piété? Pierre, revenu en Haute-Saône, il a la préoccupation de rapprocher sa fille en pension depuis 6 mois à Rigné, chez un négociant en vin. Car il sait aussi que la Gestapo recherche une fille de chef terroriste dangereux à abattre sans sommation, cachée dans la région. L'abbé Mallet la fait venir chez le maire, notable, petit industriel et bon catholique de la commune de Magny-Vernois. Elle a alors 3 ans et demi et se souvient encore du cadre plutôt doucereux de ce séjour. Elle a, de temps à autre, le soir à la nuit tombée, elle recevait la visite du commandant Camille, qui dînait, couchait là et repartait avant l'eau.
La neige tombait sur la route, il faisait nuit depuis longtemps. Le vent poussait à la déroute, quelques oiseaux frileux dans le champ. Et l'homme avançait de l'allure, pressé de ceux qui rentrent tard. Dans la neige, ses chaussures laissaient des traces lourdes, c'était tard. La neige tapissait encore le fond de cette nuit de Noël. Quelques fenêtres brillantes encore se prenaient pour étoiles dans le ciel. Dans sa maison, un enfant rêve que son papa viendra bientôt, et qu'enfin vienne cette trêve des fusils pointés pour des drapeaux. Les flocons tombaient en rafale sur le clocher de la chapelle. Un chant parlant de cette étoile perçait la nuit glacée de Noël. Et l'homme avançait sur la route, ses pas s'effaçant peu à peu, pour que demain vienne le doute au lève-tôt d'ici trop curieux. La neige engourdissait les branches du vieux chêne vers le portail. Quand l'homme tourna la poignée blanche, le cœur gonfla soudain son chandail. À quelques pas de neige vierge, la maison dormait volet clos. Il allait refouler la neige après tous ses jours pris au plus beau. Quand la dame ouvrit la porte, elle ne connut point son mari. Tant la neige avait fait en sorte qu'il ressemblât au vieillard de minuit. Au petit jour chargé de brume, l'homme prit les petits souliers et glissa ces mots de sa plume, cadeau pour mon enfant. La liberté.
En 1943, de nombreuses arrestations inquiètent tout le monde. On le sut plus tard, elles étaient le fait d'un traître, Georges Poutot, infiltré chez les FTP, qui, un peu suspecté, ira continuer sa sale besogne en Côte d'Or puis en Saône-et-Loire. Après-guerre, condamné, il sera fusillé en avril 48. Le 11 décembre 1943, le commandant Camille prend congé de la famille Girardot, les hôtes de sa fille, en leur disant qu'il a bon espoir que son épouse, déportée à Ravensbrück, s'évade bientôt. Cet espoir affiché montre, au-delà de l'expression de son plus cher désir, combien les résistants, même les plus impliqués à des niveaux de responsabilité, étaient dans l'ignorance de la réalité des camps de concentration. Partis à Nancy avec Pierre Durand, son plus proche compagnon durant cette période, ils échappent de peu à l'arrestation, étant reconnus par un flic en civil qui appelle ses collègues déguisés. Pierre balance alors la grenade qu'il avait dans la poche et il se sauve. Il devient urgent de changer encore de région. Pierre se rend alors à Rochefort où il passe Noël chez son frère Jacques. Son ami Pierre Durand sera arrêté en janvier et déporté à Buchenwald. Le 10 janvier, Monique, sa fille, est conduite de Magny-Vernois à Roanne chez un cheminot, puis à Nancy et enfin à Valdoie-Belfort, chez un gendarme patriote, sécurité presque absolue. Début 44, Pierre Georges est au bureau national des opérations de la direction des FTP. Elle sera dépêchée plusieurs fois dans des régions pour organiser des opérations difficiles. En février 44, Fabien prépare une opération de libération de 400 camarades emprisonnés à Blois. L'opération ne put avoir lieu du fait d'une déportation massive des prisonniers juste avant la date prévue. Le 23 février 44, il est dans le Nord-Pas-de-Calais et pour l'anniversaire de l'armée rouge, dans la même nuit, 20 trains déraillent. Repéré, là aussi, il ira en Bretagne durant le mois de mai. Juin 1944, il est de retour à Paris. À ce moment-là, voilà presque un an que son épouse André est à Ravensbrück, partageant le sort terrible des victimes des nazis et se raccrochant au fol espoir de retrouver sa fille et son mari. Fin juin 44, Pierre Georges est chargé du commandement des FTP de Paris pour la rive gauche et la banlieue sud. Il devient le colonel Fabien. Le 10 août, Charles Tillon, pour le comité militaire des FTP, lance l'ordre du déclenchement de l'action insurrectionnelle. Aussitôt, grève générale dans 17 dépôts de chemin de fer. Le dimanche 13 août, Fabien attaque le dépôt de locomotives de Montrouge-Châtillon, occupé par les Allemands, et réussit le lendemain la même action à Vitry. Fabien, au premier rang du combat, reçoit une balle dans la cuisse. Le 19 août, Chaban et Parodi acceptent la trêve demandée par von Scholtitz et font placarder partout des affiches appelant au cessez-le-feu. Mais dans la ville, c'est déjà l'insurrection. Et la trêve dénoncée par le PCF, la CGT, le Front National et les FTP est rejetée le 21 par le CNR, le CPL et l'état-major des FFI. Le 20, Fabien fait dresser des barricades dans le 13e où il siège et commande l'attaque victorieuse de la porte d'Orléans occupée par les Allemands. Le 24, Fabien dresse un plan d'attaque du palais du Luxembourg qui héberge l'état-major de la Luftwaffe. Il faut des chars. Ce seront ceux de la 2e DB que Fabien réussit à obtenir de Leclerc, qu'il lui envoie pour cette action. Et le 25, avec l'appui des FTP, Fabien fait reculer des camions de sable sur les blocos qui seront aveuglés par le déversement des chargements de sable et on réduira ces blocos à la grenade. Des grenades fabriquées par les ouvriers de l'usine Gnome-et-Rhône qui la veille encore travaillaient pour les Allemands. Ce 25 août, von Scholtitz signait son acte de reddition en face du général Leclerc et de Roll Tanguy, chef des FFI parisiens. Le 26 août, Monique est assise aux côtés de Pierre Georges dans une jeep au milieu de la foule et déguste bananes et chocolat. Mais quand elle demandera à son père où est maman, il restera muet. Le matin du 28 août, de Gaulle réunit les chefs des partisans pour les féliciter et les incorporer au plus vite. Fabien était là, mais pour un petit impair de protocole, de Gaulle refusera de lui serrer la main. Un des derniers jours d'août, Pierre Georges se rend avec Albert Ouzoulias au cimetière d'Ivry, et là, devant chaque croix qui porte le nom d'un de leurs copains, des bataillons de la jeunesse ou de l'OS, assassinés ou morts au combat, ils éclatent en sanglots.
Pour mes amis morts en mai, et pour eux seuls désormais, que mes rimes aient le charme, qu'ont les larmes sur les âmes. Et que pour tous les vivants qui changent avec le vent, si aiguisent au nom des morts, l'arme blanche du remords. Et mots meurtris, rimes où le crime crie, elles font au fond du drame le double bruit d'eau des rames. Banal comme la pluie, comme une vitre qui luit, comme un miroir au passage, la fleur qui meurt au corsage. L'enfant qui joue au cerceau, la lune dans le ruisseau, le vétiver dans l'armoire, un parfum dans la mémoire. Rime, rime où je sens la rouge chaleur du sang, rappelez-vous que nous sommes féroces comme des hommes. Et quand notre cœur faiblit, réveillez-nous de l'oubli, rallumez la lampe éteinte que les vers vides teintent. Je chante toujours parmi les morts en mai, mes amis.
Mais en septembre 1944, la guerre n'est pas finie du tout. De Gaulle n'a qu'une idée, intégrer les partisans dans l'armée officielle ou les rendre à la vie civile. Le comité militaire du CNR, lui, veut que les FFI deviennent le noyau d'une armée populaire nouvelle. Et le 2 septembre, Fabien commence à recruter des volontaires parisiens pour constituer ce qui sera la colonne Fabien, dite aussi 1er régiment de Paris. Aussitôt vécu comme un défi ouvert à l'autorité du gouverneur militaire de Paris, le général Koenig. Fabien établit son poste de commandement à Nanteuil-le-Haudouin, en Seine-et-Marne, et il va recevoir des hommes, les 550 venus de la caserne de Reuilly, le bataillon du Mont-Valérien, de 4 à 500 hommes, et plus tard ce seront le bataillon de la Meuse, puis le premier bataillon de marche de Paris que les gendarmes avaient ordre d'arrêter. Et début novembre encore, le bataillon de la jeunesse. Partis à 1300, ils sont plus de 3000 hommes à la mi-novembre. Qui sont-ils? 84% viennent de la Seine, âge moyen 20 ans et demi. 70% se déclarent ouvriers et Fabien, lui, n'a que 25 ans. Les femmes combattantes seront vite reléguées aux fonctions administratives en conformité avec les conventions militaires, et les étrangers, à hauteur de 10% des effectifs, ne sont jamais relégués dans des régiments style légion étrangère. La devise est celle de Fabien, vaincre et vivre. Le régiment est équipé de briques et de brocs, l'état-major ne s'en préoccupant pas. La moitié des soldats n'ont pas de casque, l'armement et l'équipement est constitué de récupérations diverses. Koenig ne veut pas leur attribuer de carburant. Ainsi rejeté, Fabien propose alors ses services à la première armée américaine et au bout de 5 jours, ils sont rattachés au 20e corps d'armée US du général Walker. Les dotations s'améliorent, même s'il y a encore bien des lacunes. Le général Juin, au nom de De Gaulle, met la pression sur les Américains pour qu'ils rompent avec cette unité. Finalement, un colonel diplomate est dépêché et l'unité de Fabien est officiellement reconnue et rattachée à la 20e région militaire. Opération qui permettra de la retirer du front. Le GTL, ainsi qu'il s'appelle désormais, est constitué de 2 régiments, de 3 bataillons chacun, d'un bataillon divisionnaire et d'une compagnie de mortiers et de mitrailleuses l'autre. La vie quotidienne est à gérer avec difficulté, la question des soldes aussi. Le rapport de 1 à 14 dans l'armée entre le bidas et le plus haut gradé est ramené de 1 à 5 dans l'unité. C'est le 11 novembre et on veut défiler à Paris. On fait 27 km à pied pour aller prendre le train. Or, De Gaulle et ses services donnent des ordres à la SNCF de ne pas mettre de train à disposition. Le 6 décembre, la brigade arrive à son casernement de Vesoul sous la haute autorité de Delattre, qui a accepté d'intégrer la brigade Fabien à sa première armée. Le 27 décembre, pour préparer une opération de minage délicate, Fabien demande qu'on lui apporte dans son bureau une de ses mines. C'est l'heure du repas du soir. Il va manger avec ses hommes et revient avec son état-major examiner la mine. Il saisit dans le bureau d'à côté un tisonnier pour ouvrir la caisse et repart. L'instant d'après, une énorme explosion. Il ne restait plus rien du local et de ses occupants. 6 morts. Accident ou attentat. Plus de 65 ans après, on ne sait toujours pas et peut-être ne saura-t-on jamais. Accident, dit la sécurité militaire. Attentat, disent les brigadistes. On ne sait même pas de quel type de mine il s'agissait, car il y avait 3 mines et l'officier enquêteur fit sauter les 2 autres. La mine n'était pas piégée quand le soldat chargé de la porter au PC l'a prise en main. Mais ce soldat a disparu. L'adjudant-chef P, recruté technique, responsable de l'armurerie et qui finira fusillé en Allemagne, disparaît le soir de l'explosion. Accident, vengeance, acte politique, criminel, les hypothèses restent ouvertes. Mais Pierre-Georges avait été anéanti, lui qui s'était sorti héroïquement de tellement de situations impossibles, qui avait en tête cette obsédante pensée d'aller délivrer son épouse en Allemagne et de participer à l'écrasement du nazisme. Il y pensait tellement que depuis son départ avec la brigade début septembre, il avait mis dans sa valise des affaires pour son épouse. Le 1er mars 1945, André fait partie d'un transport de Ravensbrück à Mauthausen, un nouveau calvaire, et le 21 avril 1945, elle voit 2 hommes du CICR s'approcher et leur dire en français qu'elles vont être rapatriées par la Suisse. Ils ne savent pas s'il faut vraiment y croire. Et puis, comme pour tous, l'épreuve a été si dure que la joie ne peut pas submerger cet océan de souffrance et de mort. On peut se retrouver vivant et anéanti quand même. Le 17 avril 1945, Pierre Villeminot est en transfert depuis Dachau avec 600 déportés face à l'avancée de l'armée rouge. Ils entendent les canons et prennent espoir. Mais les SS les regroupent dans une carrière pour les abattre et commencent à le faire. Pierre s'échappe en grimpant à la falaise de la carrière. Mais un Allemand le repère et tire. Il s'écroule. Il est 3 heures du matin et Pierre Villeminot est mort. Le 3 janvier 1945, obsèques solennelles à Paris de Fabien, Dax et Lebon. Une foule, bien sûr. À une tombe au Père Lachaise, qui est située en face du mur des fédérés, là où Pierre retrouva les siens, ceux qui, au fil de l'histoire, ont refusé l'oppression et ont lutté pour la justice sociale.
Ornant largement la muraille, 20 drapeaux rouges assemblés cachent les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés. Bien plus belle que la sculpture des tombes que bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture des morts enterrés sans cercueil. Ce gazon que le soleil dore quand mai sort des bois réveillés, ce mur que l'histoire décore qui saigne encore, c'est le tombeau des fusillés, c'est le tombeau des
autour de ce tombeau sans bronze, le prolétaire au nez des lois, des héros de 71, écoute chanter les exploits. Est-ce la tempête ou la houle montant à l'assaut d'un écueil? C'est la grande voix de la foule consolant les morts sans cercueil. Écoute, bon bourgeois qui tremble, pleurant ce qu'on croit oublié. Le peuple tout entier s'assemble et vient ensemble près du tombeau des fusillés. Près du tombeau des fusillés. Loup de la semaine sanglante, sachez-le, l'agneau se souvient du peuple, la justice est lente, elle est lente, mais elle vient. Le fils fera comme le père, la vengeance vous guette au seuil. Craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil. Tremblez les lions qu'on courrousse, mordent quand ils sont réveillés. Fleurs rouges écloses dans la mousse, l'avenir pousse sur le tombeau des fusillés, sur le tombeau des fusillés.
Ainsi se termine cette deuxième émission réalisée en hommage à Pierre Georges, alias entre autres colonel Fabien. Ce personnage de militant français antifasciste mérite absolument qu'un éclairage médiatique soit porté sur lui à travers une meilleure connaissance de sa vie et de son action. C'est à cet objectif que vise cette émission, moins pour en donner une idée exhaustive que pour inciter l'auditeur à aller plus avant dans sa connaissance de l'histoire des luttes anti-nazis. Pour réaliser cette émission, nous avons utilisé essentiellement trois ouvrages. « Le colonel Fabien était mon père », un livre de Monique Georges, sa fille, paru en 2009 aux éditions « Mille et une nuits », toujours disponible. « Capitaine Henri Fabien en Franche-Comté 1942 » de Jean-Guy Modin, paru en 1956, introuvable, sauf dans le réseau des bouquinistes. Les bataillons de la jeunesse d'Albert Ouzoulias aux éditions sociales, paru en 1969, à notre connaissance non réédité et lui aussi introuvable, sauf dans le réseau des bouquinistes. Nous remercions en particulier Monique Georges qui a bien voulu superviser notre proposition et apporter les corrections nécessaires. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Claude Vinci interprétant le poème de Paul Éluard mis en musique par Joël Holmès au nom du front parfait profond. Puis c'est Rosalie Dubois qui chantait un chant de maquis, ceux du maquioche, chant bourguignon. Ensuite c'est Boris Knapp qui lui chantait un chant de maquis jurassien à la ferme du bois. Puis Jean-François Rémy sur la musique qu'il a composée interprétait La Rose et le Réséda, le célèbre poème de Louis Aragon. C'est ensuite Hélène Martin qui interprétait sa composition « Femme de feu ». Puis Pierre Tournière interprétait sa composition « Nuit de Noël ». Ensuite, vous avez entendu « Pour mes amis morts en mai », un texte de Louis Aragon mis en musique et interprété par Hélène Martin. Et enfin, c'était « Le tombeau des fusillés » de Jules Jouy pour les paroles, Eve Doria pour la musique, dans l'interprétation de Serge Ougeroyo. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clac. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clac. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Biston Clac. ses pistancles. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est pistancles. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chante qu'on les bise, mais on les claque. On se bise en classe.